Nous prions, Père. Oh Seigneur, quelle grâce d'être là tous ensemble, et quelle grâce de savoir que tu es avec nous. Quelle grâce de savoir que tu nous as lavés, purifiés de tous nos péchés. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes, mais c'est à cause de ta bonté envers nous, de ta grâce, de ton plan merveilleux que tu as arrêté de toute éternité pour faire de nous un peuple qui t'honore, qui te loue, qui t'adore pour toujours. Seigneur, nous savons bien que nous ne sommes pas du tout à la hauteur de ce plan, mais nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur le secours de l'Esprit Saint pour nous rendre petit à petit semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons aussi sur le secours de l'Esprit Saint pour la compréhension de ta parole, pour que nous puissions être conduits dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, dans l'amour. Oui, Seigneur, reçois la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux et j'avais pensé ce matin attaquer de plein pied le 11e chapitre, mais en fait pour la compréhension de ce dont parle ce 11e chapitre, la foi, il faut qu'on revienne un petit peu sur deux passages d'Hébreux 10. D'abord Hébreux 10, 19 à 24, et après les versets 35 jusqu'à Hébreux 11, 2. D'abord donc versets 19 à 24 d'Hébreux 10. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et donc, ensuite, depuis le verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc on a repris ces deux passages d'Hébreux 10 qui vont nous aider à mieux saisir ce que ça signifie réellement, ou devrait signifier quand on dit qu'on a la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. On va voir aussi à quel point Dieu attache de l'importance à ce que nous vivions par la foi. Pourquoi c'est important que nous ayons la foi, la vraie, et pas une contrefaçon, pas quelque chose où on s'illusionne, où on se trompe soi-même par un faux raisonnement, ou même par une absence de raisonnement. On se contente de dire « je crois que Dieu existe » et c'est ça ma foi. Ou encore, étant donné que je connais certaines choses de la Bible, que je prie tous les jours et que je participe régulièrement au culte, ou pour les catholiques à la messe, eh bien à cause de tout ça, je peux dire que j'ai la foi. Et que par conséquent, si j'ai la foi, je suis tranquille avec Dieu. Il me regarde d'un bon œil. Mais non, ça ce n'est pas bon du tout. Alors pourquoi est-ce si important d'être habité par la foi biblique et pas par une contrefaçon? Eh bien tout simplement parce que la foi qui nous est enseignée dans la Bible est la seule qui plaît à Dieu. Et c'est donc la seule qui nous permet d'entrer dans la présence du Père, dans le sanctuaire céleste, auprès du trône de la majesté divine. Pour le moment, on y entre déjà, mais par la foi, justement. Un jour viendra où nous y entrerons en chair et en os, après la résurrection. Et c'est formidable, parce que on n'y entre pas dans la crainte du jugement, ou de la colère, parce qu'on sait qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Non, mais on y entre avec confiance, avec assurance, avec joie aussi, et dans une attitude très humble, parce qu'on sait que ce matin encore, le péché s'est hélas manifesté dans nos vies. Mais justement, nous entrons dans la présence de notre Père Céleste avec assurance parce que nous savons que le sang de Christ a une valeur et une puissance telle qui nous purifie, qui nous lave de tous nos péchés. C'est parce que Jésus est revenu dans le sanctuaire céleste 40 jours après sa résurrection, donc le jour de l'ascension. C'est parce qu'il y est retourné avec son propre sang, et que ce sang, il l'a présenté à Dieu. C'est à cause de ça, à cause de cette œuvre unique et parfaite de notre grand prêtre, de notre souverain sacrificateur, Jésus, que tous ceux qui croient au sens biblique du terme reçoivent l'assurance qu'ils sont aimés de Dieu et accueillis dans sa présence, pour toujours. Mes amis, c'est tellement réconfortant de se souvenir de ces choses, de s'en souvenir tous les jours. Pas seulement réconfortant, mais c'est un puissant encouragement à persévérer, à ne pas abandonner notre assurance. Parce que mes amis, je n'ai pas besoin de vous le dire, le monde dans lequel nous vivons est un monde difficile, impitoyable pour les chrétiens qui cherchent à être fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et ce monde-là, dans lequel nous vivons tous les jours, ce monde-là, avec ses innombrables tentations, ses convoitises plus fortes et sournoises les unes que les autres, présente à toute heure du jour et de la nuit, sur tous les écrans aujourd'hui omniprésents dans la vie de tout un chacun, eh bien si on conjugue tout ça avec la chair, avec le péché qui nous habite, oh là 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 là, si Dieu ne nous accordait pas un continuel secours, mais nous serions rapidement terrassés, à terre, détruits par le péché. Et donc, je reviens à la fin de ce 10e chapitre, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance. » Nous avons besoin de persévérance. « Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc, c'est ce qu'on disait. C'est la connaissance des promesses de Dieu, de ce qu'il a déjà accompli, et de ce qui se passe en ce moment même dans le ciel. Il se passe des choses maintenant dans le ciel, en notre faveur. Et encore ce qui va arriver par la suite, pour ceux que le Père s'est racheté au moyen du sang de Jésus, c'est la connaissance de ces choses-là, que nous avons vues en bonne partie dans les chapitres précédents, la connaissance de ces choses-là qui va nous permettre de persévérer dans la foi, de ne pas abandonner la course avant la ligne d'arrivée. Parce qu'on va, avoir ces choses-là devant les yeux. Elles seront vivantes dans nos cœurs, dans notre intelligence aussi. Et d'ailleurs, en passant, on comprend assez bien à quel point, mais à quel point nous avons besoin de l'Église pour que nous puissions ensemble nous remémorer tout ce que le Seigneur nous a révélé dans sa parole. L'encouragement et l'exhortation mutuelle sont si importants. Alors pourquoi avons-nous besoin de persévérance? Eh bien justement, comme je l'ai dit, pour parvenir à la fin de la course. Comme un marathon, un semi-marathon, terminer la course, passer la ligne d'arrivée et gagner un beau prix. Ça, c'est l'image que Paul empruntait au jeu du stade. On peut relire ce passage dans Éphésiens 3, versets 12 à 15, où il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours ». Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, continue Paul, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. La course est peut-être longue. Oui, c'est vrai. Mais ça ne fait rien. Il ne faut pas abandonner. Il faut la poursuivre, cette course, parce que ça en vaut la peine. Parce qu'on connaît le prix que chacun recevra quand il aura franchi la ligne d'arrivée. Ce prix, c'est donc la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous entrerons, comme je l'ai dit au début, en chair et en os, avec un nouveau corps, dans la présence de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, avec tous les saints de tous les siècles. Et déjà tous ceux qui sont énumérés dans le 11e chapitre, parce qu'il y en a un bon petit paquet là. Vous vous rendez compte? Quand on pourra faire leur connaissance à ces gens-là? Que nous serons peut-être assis à la même table au banquet des noces de l'agneau. Tu vois ça, Claude Alain, si tu étais assis à côté de Noé, par exemple. Et si pendant l'apéritif, c'était Joseph, le grand intendant de l'Égypte qui venait nous servir le vin. On ne sait pas bien comment ça va se passer, mais ce sera beau, ce sera glorieux. Nous avons donc besoin de persévérance de tenir ferme dans la foi que nous professons, de ne pas perdre notre premier amour, ne pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Le premier verset du 11e chapitre dit ceci, en quelque sorte, une définition de ce qu'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On pourrait dire aussi que la foi est une ferme attente des choses qu'on espère. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on espère des choses ? Eh bien, que ce sont des choses sur lesquelles nous comptons fermement. C'est impossible à nos yeux qu'elles n'arrivent pas. Ça va arriver. On en est plus que certain, parce qu'on compte dessus. Comme un enfant dont la maman est à l'hôpital depuis une semaine. La tante de cet enfant s'appelle Maxime. Son attente est ferme. Tout au long de ses journées, c'est là-dessus que Maxime compte le plus. Revoir sa maman à la maison. Il ne sait pas exactement quel jour ça va arriver, mais il ne faiblit pas dans son attente. Il aime tellement sa maman que pendant son absence, il fait plein de choses dont il sait que si sa maman le voyait, elle serait fière de lui. Vous voyez ? La foi de Maxime dans le retour de sa maman à la maison ne faiblit pas. Au contraire, elle se renforce de jour en jour à mesure qu'il voit l'échéance se rapprocher. Elle n'a l'air de rien, cette histoire de l'enfant qui attend le retour de sa maman. Pourtant, elle est complètement réaliste. Alors, vous savez quoi ? Notre histoire, nous, y ressemble beaucoup. Ou devrait y ressembler. Ne sommes-nous pas les enfants bien-aimés de Dieu, qui attendons avec confiance et persévérance le moment où nous rentrerons à la maison et que notre Père bien-aimé nous accueillera. Comme le père de la parabole, vous savez, qui court se jeter au cou de son fils prodigue qui revient enfin à la maison. De la même manière que Maxime, qui voulait tout faire pour que sa maman soit heureuse et fière de lui pendant qu'elle était à l'hôpital, qu'avons-nous à cœur de faire pour notre bon Père céleste en attendant d'aller au ciel ? Il y avait deux raisons à ce que Maxime cherche la pleine approbation de sa maman. Deux raisons qui sont liées entre elles. D'abord, Maxime aime énormément sa maman. Parce que sa maman l'aime énormément. Et ensuite, parce qu'il se réjouit tellement de la voir, de la revoir. Mes amis, si nous avons tellement de peine à vivre dans la sainteté, à chercher et accomplir la volonté de Dieu, à marcher dans la fidélité à ses commandements, ne serait-ce pas parce que notre amour pour le Père et pour le Fils et pour le Saint-Esprit, notre amour pour Dieu est trop étriqué. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que même lorsque la Bible nous dit que l'amour de Dieu surpasse tout ce qu'on peut imaginer, bien souvent, comment répondons-nous à cet amour ? Que faisons-nous ? Nous vaquons à nos occupations. Étant donné que l'amour de Dieu est pour nous quelque chose de si abstrait, de si loin, nous semble-t-il, notre préoccupation première n'est pas de tout faire pour lui plaire, pour que notre Père Céleste puisse être fier de nous. Mais nous organisons nos vies pour qu'elle soit le plus agréable possible. Il y a quelque chose qui cloche, non ? La Bible dit que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Alors peut-être que vous estimez qu'on ne peut pas vraiment le connaître. Et vous négligez alors de rechercher cet amour. De le chercher où ? Premièrement, dans les Écritures. C'est la priorité, n'est-ce pas ? Mais ensuite aussi dans les démonstrations d'amour que nous vivons entre nous, ou dont nous sommes les bénéficiaires, ou encore auxquels nous assistons comme spectateurs. La petite histoire de Maxime et sa maman, ça nous parle de l'amour de Dieu. Dans les Écritures, l'amour de Dieu s'est manifesté de la manière la plus éclatante par le don de son Fils pour notre salut, pour que nous puissions être sauvés, que justement nous puissions connaître personnellement et intimement l'amour de Dieu, sa bonté envers nous. Son amour se manifeste aussi par le don du Saint-Esprit qui vient habiter le cœur de ses enfants. Mais quand on y pense, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Et puis aussi, il manifeste son amour par la révélation qu'il nous fait de ses promesses. Des promesses glorieuses. Le bonheur de la vie éternelle, paisible et joyeuse, que nous vivrons bientôt. Bientôt ! Mais le temps passe si vite. Bientôt, dans sa présence. C'est une promesse plus vraie encore que la certitude pour Maxime de revoir bientôt sa maman à la maison. Ça vous arrive dans la vie courante d'avoir des certitudes heureuses, d'être absolument sûr que telle chose va arriver et que ça va vous donner de la joie. Et en effet, un jour, cette chose-là arrive, et en effet, ça vous remplit de joie et de reconnaissance. Une conviction qui se réalise sans faillir. Je me suis demandé si Léa, qui a dernièrement brillamment passé ses examens, n'a pas vécu une chose un peu semblable. Mais comme pour Maxime, dont la maman était encore à l'hôpital, le vrai bonheur, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a un temps d'attente. Et dans la vie du chrétien, ce temps d'attente est une réalité quotidienne. C'est ce qui ressort très nettement de la fin du 10e chapitre d'Hébreux, puis tout le 11e, et on pourrait même dire encore les nombreuses exhortations de la suite. Alors, pendant cette attente, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? À quoi va donc servir ce temps de persévérance ? À accomplir la volonté de Dieu. Notre temps de persévérance, d'attente, va servir à accomplir la volonté de Dieu. Verset 36, toujours. Le temps d'attente, de patience, de persévérance n'est donc pas un temps d'inactivité, encore moins de nonchalance, mais pas non plus un temps où nous faisons ce que nous voulons, où nous accomplissons notre propre volonté. Non, parce que Dieu destine ses enfants pour les former à la vie du ciel, pour les en rendre entièrement dignes de ce ciel. Il nous destine à entrer dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Allons plus loin dans notre réflexion. Mais je ne suis pas en train de changer de sujet. Hein. C'est la même réflexion, mais on va plus loin. Au verset 38, l'auteur cite le prophète Habacuc. « Mon juste vivra par la foi. » Mon juste vivra par la foi. Vous comprenez ce que Dieu requiert de nous? Ce qu'il demande de nous? Pour que nous puissions être appelés des justes. La seule chose que notre Père Céleste requiert de nous, vous savez ce que c'est? C'est la foi. Parce que sans la foi, comme nous le verrons dans ce 11e chapitre, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bon, j'entends déjà quelqu'un me dire, mais Christophe, qu'est-ce que tu fais de l'obéissance? Dieu ne requiert-il pas également de notre part l'obéissance? Qu'allons-nous répondre à ça? Oh oui, certainement. Mais attendez, il y a deux sortes d'obéissance. L'une qui plaît à Dieu, l'autre qui lui déplaît. Ha. L'une qui découle de notre foi, qui fait la démonstration que notre foi est vraie, qu'elle est authentique, et l'autre qui, au contraire, se passe de la foi et cherche à s'élever vers Dieu par ses propres forces, par ses propres mérites. Cette obéissance-là, si on y réfléchit bien, n'est pas une obéissance à Dieu. Puisque l'obéissance à Dieu, celle qu'il requiert de nous, ce qu'il demande de nous, doit nécessairement découler de notre foi en Jésus-Christ. Donc non, ça c'est une pseudo-obéissance qui n'est pas un fruit de la grâce, mais qui, en fait, est une idolâtrie. Et je voudrais dire que chaque fois que quelqu'un, et peut-être qu'il arrive que ce soit aussi notre cas, hein, chaque fois que quelqu'un fait des efforts pour obéir à Dieu sans se reposer sur la personne et sur l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la perfection de son sacerdoce et sur les infinies vertus de son sang précieux, chaque fois que quelqu'un compte sur ses propres efforts, il fait quoi? Il perd son temps. Et vous perdez votre temps si vous cherchez à passer pour quelqu'un de bien, en menant une vie bien comme il faut selon les apparences, en cherchant à vous faire admirer des autres, ou pire encore, dans le but de vous admirer vous-même. Ce genre d'obéissance-là est une perte de temps, sans compter que c'est de l'idolâtrie. Ça ne sert à rien du tout, qu'à vous tromper vous-même. Vous prétendez avoir la foi simplement parce que vous croyez que Dieu existe, mais si vous examinez votre cœur à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, si vous examiniez, vous verriez tout à fait clairement que ce n'est pas la foi en Dieu qui vous anime, ni bien entendu la foi en Jésus-Christ, mais c'est la foi en vous-même. Et qu'est-ce donc que d'être habité par la foi en soi-même? C'est encore une fois de l'idolâtrie. Parce que ce n'est pas l'amour de Dieu qui m'anime à ce moment-là, ce n'est pas la reconnaissance envers lui, ni la paix, ni la joie, ni la force que le Christ me procure à chaque instant de ma vie, mais c'est le seul amour de ma petite personne. De l'égocentrisme de la plus pure espèce. Non, mais il faut appeler les choses par leur nom, sinon on s'endort dans de faux raisonnements, on se berce d'illusions. Et alors, pour revenir à cette fausse obéissance, eh bien, par ce genre d'obéissance frelatée, une obéissance qui n'est pas le fruit d'une foi authentique, eh bien, loin de se rendre agréable à Dieu, on l'irrite, au contraire. Et loin de s'approcher de lui, on s'en éloigne. Franchement, ce n'est pas très réussi. Donc, c'est bien ça. La seule chose que Dieu requiert de nous pour lui être agréable. La seule chose qui puisse nous conduire à la réalisation de ces glorieuses promesses dans nos vies, c'est la foi authentique. Et bien sûr, cette foi véritable implique l'obéissance. Mais l'obéissance fait simplement partie de la foi authentique. Elle lui est naturelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit ajouter à la foi. La foi est obéissante, ou alors elle n'est tout simplement pas. Elle est agissante par l'amour, dit Galates 5, 6. Maintenant, attention, parce que on pourrait penser qu'avec ce que je suis en train de dire, qu'à ce moment-là, avec cette question de l'obéissance qui est naturelle à la foi, à ce moment-là, dans l'Église, on ne devrait plus entendre parler d'exhortation à l'obéissance. Hein? On ne devrait plus en parler puisque nous sommes des chrétiens avec une foi authentique. Plus besoin pour le prédicateur d'exhorter l'Église à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est correct, ça? Non, non, bien sûr que non. Et pourquoi est-ce encore nécessaire alors de recevoir des encouragements à obéir à Dieu? Pourquoi faut-il nous encourager mutuellement dans l'obéissance à Dieu? Tout simplement parce que nous sommes toujours dans la chair. Et que si notre salut a été en effet totalement accompli sur la croix de Jésus-Christ et par sa résurrection, nous-mêmes, de notre côté, ben, on est encore en chemin. Et à cause de la chair, qui malheureusement refuse de s'avouer vaincue, nous avons besoin d'encouragement, d'exhortation, d'être repris, de discipline dans l'Église. C'est ce qu'on voit dans cette épître aux Hébreux et dans toute la Bible. Et donc justement, comme le dit la fin du dixième chapitre, et comme vont le dire aussi tous les exemples de témoins de la foi du onzième, la foi authentique est obéissante, oui, mais elle est aussi persévérante. Là, je ne parle plus de l'obéissance en tant que telle, mais de la foi. La foi qui sauve, qui conduit au salut, ne se lasse pas de compter sur la réalisation future des promesses de Dieu. C'est très important, ça. Elle ne se lasse pas. Elle ne se fatigue pas parce qu'elle a l'assurance que ses promesses se réaliseront un jour. On en parlait tout à l'heure, hein, des certitudes. Puisque Dieu l'a promis, il ne peut pas en être autrement. L'auteur l'affirme, c'est au verset 37, « Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Nous, c'est sûr, nous ne savons pas quand ça arrivera. Mais Dieu, lui, le sait parfaitement. Le moment est déjà arrêté, l'heure est décidée, le jour, le mois, l'année, tout est décidé et arrivera exactement, exactement comme Dieu l'a prévu. Et en attendant, notre bon Père Céleste attend de ses enfants, attend de nous, que nous ayons une foi sincère et persévérante, que nous ne nous appuyons pas sur nos sentiments, sur nos impressions, et encore moins sur ce que nous voyons dans la société et dans le monde qui nous entoure. Non, mais appuyons-nous sur sa parole, sur ses promesses, que par les yeux de la foi, les yeux du cœur, nous pénétrions déjà dans le sanctuaire céleste, que nous expérimentions déjà la joie de la présence du Christ avec nous et en nous. Que la joie de Dieu soit notre force. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et que pour l'avoir possédée, cette foi-là, cette assurance-là, les anciens, ceux qui nous ont précédés, qui nous ont montré le chemin, nos pères dans la foi, en somme, ceux-là ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, comme le dit le verset 6, Ils ont été agréables à Dieu. Alors récapitulons. De quoi est-il nécessaire pour que nous puissions être agréables à Dieu ? Trois choses. Trois choses. D'abord, il nous faut connaître sa volonté. Pas seulement sa loi et son évangile, ses promesses aussi. Et pourquoi faut-il les connaître ? Deuxième chose, il faut les connaître pour que nous puissions vivre en conséquence. C'est-à-dire que nous obéissions à ses commandements en comptant sur ses grâces, sur son secours, sur sa protection et l'amour qu'il déverse sur nous à chaque instant. Et enfin, troisième élément indispensable pour être agréable à Dieu, ne pas nous laisser ébranler par les épreuves et par le temps qui nous sépare encore de la pleine réalisation de ses promesses. Autrement dit, la persévérance est indispensable pour être agréable à Dieu. Le Seigneur Jésus le dit lui-même, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Et l'auteur de notre lettre aux Hébreux, lui aussi avait dit au troisième chapitre que la maison de Dieu sur laquelle Jésus, son fils, a été établi, cette maison, c'est nous. C'est-à-dire l'Église fidèle. Oui, la maison de Dieu, c'est nous, mais pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, ou plutôt pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ça, c'était au chapitre 3, verset 6. Mais là encore, bien entendu, donc, dans cette question de la persévérance, soyons tout de suite rassurés. Nous n'avons pas à compter sur nos propres forces, sur notre faculté personnelle à persévérer. Parce que là, on sera vite découragé. Mais nous comptons sur la grâce et sur les forces qui nous sont données par l'Esprit Saint, qui habite dans le cœur du croyant. Nous devons toujours nous rappeler que parce que le Seigneur nous aime, c'est le Seigneur lui-même, c'est lui qui nous conduira dans la présence de Dieu. En fait, on peut dire qu'un vrai chrétien, parce qu'il a été racheté par le sang de Jésus, va nécessairement persévérer. Un vrai chrétien va nécessairement persévérer. On disait tout à l'heure qu'une marque de la foi authentique, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, que l'obéissance était naturelle à la foi, ce qui est vrai, que ce n'était pas quelque chose à ajouter, eh bien, il en est de même de la persévérance. Un chrétien authentique, selon le cœur de Dieu, cherche à plaire à son Seigneur, et donc il persévère jusqu'à la fin, dans ce chemin-là. Et pour ça, on n'a pas de souci à se faire, si on se confie dans le Seigneur. Alors, il aura sans doute des moments difficiles où il perdra pied, où il aura l'impression de flancher, hein, à qui ça n'est pas arrivé, des choses comme ça. Mais l'amour du Père ne l'abandonnera pas. Et en cas de chute, c'est lui, c'est le Père, le Seigneur qui le relèvera. Psaume 37, 24. Notre part est de saisir la main de Dieu et de nous relever et de poursuivre la route. Ne restons pas à terre. Ça fait trop plaisir au diable et à ses démons. Ça fait trop plaisir au monde qui déteste le Seigneur que nous restions, si nous restons à terre. Oh, ça lui fait plaisir, ça. Donc, vous voyez, je vais terminer par là. Il faut les trois choses que je résumerai par CCP, compte de chèque postal. Connaissance, premier C. Conséquence, deuxième C. Persévérance, P. Facile à retenir, C, C, P. Connaissance, conséquence, persévérance. S'il manque une de ces trois parties, ça n'est pas possible de plaire à Dieu. Ça n'est pas possible d'être sauvé. Pas possible d'être introduit pour toujours dans le sanctuaire céleste. Les trois font partie de la vie du chrétien authentique. C'est ce qui compose la foi authentique du chrétien. Connaître la parole de Dieu, vivre alors une vie chrétienne conséquente, qui s'appuie sur cette parole et qui cherche à la mettre en pratique, et enfin, persévérer dans tout ça avec confiance et avec l'assurance de l'amour de Dieu. Et en cultivant, bien sûr, une communion intime, sincère, paisible et joyeuse avec notre Père Céleste et notre Seigneur Jésus, dans une sainte crainte de Dieu. CCP, connaissance, conséquence, persévérance. Allons-y. Amen.